quelle est la pensée principale de ce chapitre ? Pas la haine, non. L'amour, hein ? Je l'ai entendu. L'amour, et c'est sûr que ça va faire partie de cette lecture. 1 Corinthiens 13, 13. C'est à la fin du chapitre donc. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2, maintenant. Nous retrouvons ces trois choses qui demeurent. Et combien c'est intéressant de réfléchir déjà à ce que nous venons de lire, que ces trois choses demeurent. Ça veut dire que pendant toute notre vie, il faut absolument qu'il y ait ces trois vertus dans chacune de nos vies, pour que nous voyons la grâce de Dieu. Mais 1 Thessaloniciens 1, verset 2, nous parle de quelque chose que Paul a remarqué chez les Thessaloniciens. Justement, c'est ce qu'il leur dit. 1 Thessaloniciens 1, 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Amen. » Les Thessaloniciens, par leur vie, par leur comportement, étaient des sujets de bénédiction pour Paul et ses collègues, parce qu'ils voyaient ces trois choses. Et ces trois choses, vous remarquez qu'à chaque fois, il y a un nom qui l'accompagne, l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance. Et que cet après-midi, ces trois vertus soient accompagnées de ces trois noms-là, associés, bien appropriés, et que nous puissions les mettre en pratique, et que nous puissions voir la gloire de Dieu sur notre vie, et que les uns pour les autres, nous puissions rendre continuellement grâce à Dieu, parce que nous voyons l'œuvre de la foi dans Jérémie, dans Michael, dans Madame Clarence, dans chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord ? Que nous puissions voir également le travail de notre amour, que nous puissions voir la fermeté de notre espérance. Et je réfléchissais à ces choses, et j'essayais de trouver une illustration. Vous savez, dans la parole, dans 1 Thessaloniciens, justement, au chapitre 5, juste après, on voit qu'il y a une illustration. Ces trois aspects sont encore illustrés par une image de l'apôtre Paul. Si je vous dis cuirasse, à quoi vous pensez ? Justice. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire la cuirasse de la justice. Mais 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, nous dit... Alors, je suis perdu, c'est là, voilà. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. D'accord ? On a l'habitude de l'armure d'Éphésiens, avec la cuirasse de la justice. Mais là, c'est une autre armure, l'armure des Thessaloniciens. C'était la cuirasse de la foi et de l'amour. Quelque chose qui est là pour protéger. Et c'est une bonne image, c'est une bonne illustration qu'il faut réfléchir. Le casque, c'est le même. Hein, l'espérance du salut, c'est la même chose. Ça, on est d'accord. Mais je voulais essayer de trouver quelque chose. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans la parole, dans ce sens que l'image en elle-même. Mais vous allez voir que ça correspond bien. Vous savez comment j'ai trouvé ça ? Je réfléchissais à ce message. Et puis, je me suis promené avec mon épouse et les enfants au carrefour de Portée. Et en ce moment, au carrefour de Portée, il y avait l'armée de l'air qui organise, une exposition avec des avions incroyables, quelque chose de magnifique qu'on pouvait visiter. Il y avait des stands pour du pilotage automatique, enfin, toutes sortes de choses qui étaient là. Et je me suis dit, mais oui, c'est tout simplement ça. Je vous l'explique. Notre vie sur Terre, ça peut être comparé à un voyage. Voyage vers une destination. Et la foi, c'est le moyen d'avancer. L'espérance, c'est le but à atteindre. Avoir les yeux fixés sur ce but, savoir où on va. Et l'amour, c'est simplement l'énergie qui nous permet d'apporter à tout ce système pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Vous comprenez l'image ? Et j'ai trouvé que c'était une belle image. Pour moi, c'était quelque chose de très simple, mais tellement vrai. On a besoin de rentrer, de saisir le moyen que Dieu a mis à notre disposition. Vous savez que la foi, c'est l'instrument, cet engin spirituel, cet avion, si on peut prendre cette image,
peu importe la forme, hein, que vous préférez une voiture, c'est comme vous voulez, finalement. Mais en tout cas, c'est là. Ce que Dieu nous a donné, il est dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, la foi, c'est un moyen, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'aller plus loin. Je prenais aussi ce verset, Éphésiens 3, 12, je le lis pour vous. En Jésus, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Vous voyez que par la foi, nous avons cette capacité de nous approcher de Dieu, mais seulement par la foi. Et combien je voudrais rappeler que ce n'est pas n'importe quelle foi cet après-midi. Ce n'est pas la foi dans nos richesses, ce n'est pas la foi dans nos talents, ce n'est pas la foi dans notre intelligence, c'est la foi en Jésus seul. En Jésus et en son sacrifice, en l'œuvre de la croix, comme ça a été rappelé pendant la Sainte-Cène, que nous puissions avoir cette foi-là. Et dès le moment où nous avons cette foi qui est placée dans le Seigneur, eh bien c'est ce moment où nous embarquons à bord de cet engin spirituel qui nous conduit tout droit vers le ciel. Est-ce que vous voulez aller au ciel? Est-ce que vous avez cette espérance? On y viendra, l'espérance. Mais je réfléchissais. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit une parole très, très simple. Ici-bas, maintenant que nous sommes nés de nouveau, maintenant que nous avons l'espérance du salut, il nous faut marcher par la foi et pas par la vue. Et je regardais un reportage, j'aime bien regarder les reportages, c'était une enquête, vous savez, sur un accident d'avion. Ce n'est pas un sujet très réjouissant, mais il y avait quelque chose de particulier. C'est que la cause de l'accident, c'est parce qu'un avion à moteur avec un pilote qui ne connaissait pas trop les avions, mais qui avait au moins son brevet, il a voulu piloter son avion, pas en se servant des instruments ou tout ce qu'il avait, en pilotant à la vue. Et il voyait une grande autoroute, il disait, ah ben ça doit être l'A64, je le prends pour ici, hein. Ah ça doit être l'autoroute de Bordeaux, ah ça. Et en fait, parce qu'il s'est trompé, il a pris telle autoroute pour une mauvaise, il s'est retrouvé, c'est comme s'il se retrouvait au-dessus de Blagnac, au milieu du trafic des avions, et là c'était à Los Angeles. Et à cause du fait qu'il a voulu piloter par la vue, il a créé un accident, et non seulement son avion est tombé et s'est écrasé, mais il a créé un accident avec un grand avion d'une compagnie aérienne, avec des centaines de morts, et l'avion s'est effondré sur des maisons en plus. Donc quelque chose d'horrible qui prend sa cause dans une petite chose, pilotée à la vue. Et combien, quand je regardais ce reportage, je me disais, eh oui, il y a un danger. Quand on est ici-bas, quand on est né de nouveau et qu'on veut marcher par la vue. Dieu nous a donné la foi, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. C'est lui qui l'a mis à notre disposition. C'est une grâce, on ne mérite pas. Si Dieu nous mettait un moyen de transport qu'on méritait, je vous laisse imaginer plutôt qu'est-ce que ça serait. Parce que ce qu'on méritait, c'était la mort tout simplement. La forme que ça aurait, ça serait un cercueil, si vous préférez, pour l'imager. Mais par sa grâce infinie, Dieu nous permet de rentrer dans ce moyen, cet instrument spirituel qu'est la foi, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de progresser. Nous devons rendre continuellement grâce à Dieu, à votre sujet, dit l'apôtre Paul, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. La foi, elle est en marche, elle avance, il y a un mouvement qui se fait par la foi, et combien nous avons besoin, nous, de fixer nos regards sur le Seigneur Jésus. Et vous savez que quand on accepte le Seigneur Jésus dans notre cœur, nous ne sommes pas les personnes qui doivent commander. Le commandant de bord, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas nous qui pilotons, nous sommes seulement le copilote qui doit obéir à tout ce que le pilote, le chef, le responsable nous demande de faire. Ça implique notre obéissance, ça implique que nous fassions exactement. Si on n'obéit pas à un certain moment donné, ça peut avoir de graves conséquences. Et vous l'avez expérimenté, les fois où vous avez, comme moi, désobéi au Seigneur, ben vous en avez expérimenté les conséquences. Vous êtes d'accord? Voilà pourquoi nous avons besoin de nous confier dans le Seigneur Jésus. L'œuvre de votre foi. Le travail plutôt, c'est le même mot, l'œuvre ou le travail de votre foi. La foi doit œuvrer, travailler, remplir son rôle pour nous transporter vers Dieu. L'avion, s'il veut avancer, il doit décoller, il doit voler, il doit marcher, tous les moteurs doivent être bien entretenus pour que ça fonctionne, pour nous amener vers le but. Et là où le passager le désire. Un avion qui est garé dans un hangar, quand on passe devant Airbus, on voit que des avions garés. ça ne sert pas à grand-chose, la vie en garée en soi. Vous êtes d'accord? Ça ne sert à rien pour quelqu'un qui veut voyager. Mais c'est pour cela que nous avons besoin que notre foi soit en travail active. Et vous savez qu'on peut par contre tomber dans l'extrême, c'est-à-dire que développer plein d'œuvres, faire beaucoup de choses, et finalement les faire sans avoir aucune foi. Ça me fait penser à un magnifique moteur qui est tout seul, qui n'a pas de carlin, qui ne sert pas à porter des passagers. À quoi ça sert? Un moteur tout seul. J'ai visité avec notre frère David, qui est là cet après-midi, le parking où il y avait tous les bus, là où il travaille. Et à un moment donné, il a ouvert l'arrière du bus pour montrer le moteur. Et c'est quelque chose de magnifique. Mais un moteur tout seul, ça ne sert à rien. Et les œuvres toutes seules, ça ne sert à rien. On a besoin qu'il y ait notre foi qui soit impliquée dans les œuvres. On a besoin que les œuvres s'expriment par la foi. Et je repensais à ce merveilleux passage d'Hébreu où il est question de la foi. C'est par la foi qu'ils ont fait ceci ou cela. Si on lit avec attention, on ne va pas le faire cet après-midi, mais si on lit tout le chapitre d'Hébreu, on se rend compte qu'il y a plein de verbes. Et les verbes dont il est question, ce ne sont pas « par la foi, ils prièrent ». Par la foi, ils chantèrent des magnifiques cantiques. Par la foi, ils écoutèrent la parole de Dieu et ils s'assirent sur leur chaise à l'église. C'est pas ça qui a marqué. Hein? Vous êtes d'accord? Ou alors c'est une autre version. Mais qu'est-ce qui a marqué? Moi, je les ai notés rapidement. Par la foi, il y en a un qui a offert un sacrifice. Offert un sacrifice, ça veut dire qu'il faut prendre un agneau, il faut l'égorger, il faut le préparer, toutes sortes de choses à faire. Bien pratique, avec les mains. Par la foi, il construisit une arche. Construire une arche, c'est quoi? C'est prendre du marteau et du bois ou de la scie pour couper les bois d'abord, etc. Faire un plan. Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Par la foi, il partit dans un pays. Il ne savait même pas où il allait. Mais il partit. Donc, ça veut dire préparer ses bagages, discuter avec son épouse pour voir les modalités de l'affaire, etc. etc. Ça demande beaucoup de choses. Par la foi, il y en a un qui quitta l'Égypte. Il quitta un endroit qui était mauvais. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils marchent tout simplement. Est-ce que le fait de marcher, ça peut être quelque chose qui manifeste notre foi? Vous comprenez cet aspect-là? Dans tout le Hébreu 11, on voit qu'il y a plein de verbes qui nous parlent de quelque chose qui montre la foi. Il y a plein d'actions concrètes. Par la foi, il y en a d'autres. Ils firent le tour des murailles, ils marchèrent autour d'une ville. Mais c'était la foi. Et comment notre foi se manifeste concrètement aujourd'hui? Et je ne parle pas du tout de ce que j'ai cité tout à l'heure. Les prières, s'asseoir à l'église, inviter un frère ou une sœur à manger. Je ne parle pas de ça, je parle concrètement. Comment se manifeste notre foi dans nos actions de tous les jours? Parce que c'est ça l'œuvre de votre foi, est-ce que ce n'est pas ça justement? Comment ma foi se manifeste dans les actions que je fais? Souvent, on a cette idée, cette image que à l'église, tout ce qu'on fait, c'est spirituel, et à la maison, c'est tout charnel presque. On a cette image-là, mais c'est faux. Le Seigneur nous appelle à marcher selon l'Esprit. Que tout ce que nous faisons soit spirituel. Il y a même des façons de manger qui sont spirituelles, je crois. Il y a des façons de parler qui sont spirituelles. Il y a tout ce que nous pouvons faire, ça peut être spirituel ou charnel. Le tout, c'est d'avoir ce désir d'obéir au Seigneur et de faire les bons choix, d'avoir le bon comportement qui va manifester notre foi. Et je pensais à des exemples très simples. Ouvrir la bouche et demander pardon pour notre péché. C'est spirituel, je pense, ça. Je suis sûr même. Ouvrir la bouche, vous voyez, dire une parole. Peut-être que ce sera simplement dans le cœur, ce n'est pas forcément quelque chose d'audible, mais tourner notre cœur vers le Seigneur. Quitter un endroit qui est mauvais. Vous avez des collègues qui sont en train de critiquer toutes sortes de personnes, le directeur, le responsable un tel et l'autre responsable, le syndicat qui est à fond. Quitter un endroit qui est mauvais. C'est-à-dire que nos oreilles, on sent que ce n'est pas quelque chose de bon. Ou alors on regarde un programme à la télévision, quelque chose qui est mauvais. Vous savez que c'est très spirituel que d'appuyer sur un bouton, certaines fois. C'est rien du tout. Mais c'est spirituel. Vous voyez, des fois, on associe le spirituel à ouvrir le cantique des ailes de la foi, ça, c'est spirituel. Mais des fois, appuyer sur la télécommande et arrêter la télévision parce qu'il y a des choses mauvaises qui passent, c'est quelque chose de profondément spirituel. C'est même une louange devant le Seigneur. Aussi importante que la louange qu'on fait monter le dimanche matin ou après-midi d'ailleurs, dans la communion fraternelle. Vous comprenez ? Notre foi doit s'exprimer, notre foi doit travailler, il doit y avoir une œuvre de notre foi, quelque chose qui se voit dans le concret. Prendre du temps pour lire la Bible, ça aussi c'est quelque chose de pratique, parce que ça demande de s'organiser, ça demande d'arrêter telle ou telle chose, ça demande de s'arranger pour qu'on gagne du temps quelque part, et réserver ce temps-là principal au Seigneur. Je pensais à ces choses tellement simples, mais prendre du temps pour prier avec ses enfants quand on en a. Est-ce que ce n'est pas spirituel ? Ce n'est pas grand-chose. Je sais que nous, on essaye tous les jours, quasiment tous les jours, il y a des fois où ça passe à la trappe, mais de prier avec nos enfants pour leur montrer que Dieu, ce n'est pas une option dans notre vie. Dieu, c'est le principal. Mais ça demande... pour moi, c'est pareil que construire une arche. C'est quelque chose qu'on doit construire. Jour après jour, il faut faire un effort. Ça demande quelque chose de pratique à faire. Ouvrir la bouche, et je finis avec cet exemple, pour témoigner du Seigneur Jésus. Est-ce que ce n'est pas spirituel ? Bien sûr, avec la sagesse de Dieu, quand on en a l'occasion, au bon moment, opportun, etc., parce qu'on aura prié avant et qu'on aura présenté notre journée au Seigneur, le Seigneur ouvrira les portes, il permettra les circonstances. Voilà toutes ces choses qui permettent que notre foi soit mise à l'œuvre. Mais, comme l'avion merveilleux, le plus beau au monde, peut avancer et aller loin, il ne servira à rien s'il ne sait pas où c'est qu'il va. Et c'est là qu'intervient l'espérance. L'espérance, c'est ce qui nous donne le but à atteindre, ce qui nous permet d'avoir cette connaissance claire, évidente et précise de ce que Dieu veut pour nous. C'est le cap à maintenir, le plan de vol. Et vous savez que la Bible, elle est bien placée pour nous indiquer toutes ces choses. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est ce qui va me montrer le chemin. Le jet le plus puissant, là, comme je voyais à Carrefour, c'était des avions magnifiques. Mais là, exposés tels qu'ils étaient, ça ne servait à rien. Ils étaient immobiles, ils n'avançaient pas. Combien c'est terrible quand on ne sait pas où aller. Et vous savez que l'apôtre Paul, quand il parle de la vie d'avant dans Éphésiens, il dit, vous étiez, comment ? Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Combien ? Peut-être même cet après-midi, il y en a qui sont là et qui sont sans espérance. Il y en a beaucoup dans le monde, on le sait. Combien, nous qui ne connaissions pas le Seigneur avant, eh bien, on était dans cette catégorie-là, mais peut-être cet après-midi, il y a quelqu'un qui est sans espérance, parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. La Bible nous donne beaucoup, plusieurs sujets d'espérance, et je ne voudrais pas tous les citer, parce qu'il faudrait y passer toute l'après-midi, mais je vous en donne que trois. L'espérance, ça a été cité tout à l'heure, de la gloire de Dieu. Christ en vous, qu'est-ce qu'il est dit ? L'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un cet après-midi a l'espérance de la gloire ? Est-ce qu'il sait que dans son cœur, il espère de tout son cœur, mais c'est pas, il voudrait espérer. Non, il a cette assurance dans le cœur que quand il va mourir, il va voir la gloire de Dieu. Tout le monde, tous ceux qui se sont donnés au Seigneur en tout cas, et ils ont cette espérance-là. L'espérance du salut, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Vous connaissez ce verset ? C'est en espérance. C'est vrai que le salut, nous l'avons acquis en croyant en Jésus, mais il va se manifester totalement et pleinement et incroyablement une fois que nous serons avec le Seigneur Jésus, qui nous aura totalement sauvés. Nous sommes en marche. Notre salut, il est actif. Nous sommes en train de travailler à notre salut, comme dit l'apôtre Paul. Mais nous ne sommes pas pleinement sauvés dans ce sens-là. Vous comprenez ? Il y a encore notre part à faire. Tant qu'on est sur la terre, il y a toutes les tentations qui sont là, l'ennemi, les convoitises, toutes ces choses qui font qu'il y a un combat. Et nous sommes sauvés en espérance. C'est le but vers lequel nous allons. Et nous ne devons pas nous en détourner. Et une autre chose, Galates 5:5 nous dit, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Est-ce qu'il y a des injustices dans ce monde ? La question qui est évidente. Combien d'injustices ? Je regardais juste un exemple. Aux États-Unis, vous savez qu'il y a la peine de mort qui est encore valable. Est-ce que vous savez que 4% des personnes qui sont condamnées à mort, ils sont innocents ? 4%, c'est-à-dire que sur 100 condamnés à mort, il y en a 4 qui sont innocents, qui vont mourir alors qu'ils n'ont rien fait. Est-ce que c'est juste? Et ça, c'est qu'un exemple, et je suis sûr que je prendrai en France, ça serait d'autres injustices, mais ça serait pareil. On trouverait dans n'importe quel pays, n'importe quel système humain qui ne repose pas du tout sur la grâce de Dieu, on trouverait des injustices. Même des fois dans l'Église, parce qu'on n'est pas des personnes parfaites, parce qu'on a des défauts, on peut commettre certaines injustices. Vous êtes d'accord? Ça peut arriver. Par la grâce de Dieu, on a cette capacité de se repentir, de demander pardon, etc., de se réconcilier. Mais ça peut arriver même dans l'Église. Mais Dieu n'a fait une promesse qu'un jour, il fera justice. Il y a cette espérance qu'un jour, Dieu fera totalement justice. Et je pensais à ces personnes qui peut-être souffrent parce que dans leur travail, on se moque d'eux parce qu'ils sont chrétiens. Est-ce que vous savez que Dieu vous fera justice? Est-ce que vous avez cette assurance que toutes les fois où on se moque de vous parce que vous êtes chrétien, mais Dieu, il vous récompensera si vous êtes heureux, si vous réagissez bien. Pas si vous dites « Ah Seigneur, pourquoi ?» et que vous commencez à vous plaindre. Seigneur, il a dit « Heureux serez-vous quand on se moquera de vous à cause de moi. » Si vous êtes heureux, eh bien, le Seigneur vous récompensera. Dans le ciel, ces moqueries, toutes ces paroles mauvaises se transformeront en des récompenses. C'est quelque chose d'incroyable quand même. Et ceux qui auront dit toutes ces paroles méchantes, qui se seront moqués, eux seront punis. Sauf, bien sûr, et ils ont pris pour ça, sauf s'ils se repentent. Est-ce que vous aimeriez que les personnes qui se moquent de vous se repentent et demandent pardon et que le Seigneur les sauve et que vous les retrouviez dans le ciel? Je crois que tout le monde voudrait ça. Hein? Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, elles seront perdues en enfer, punies à cause de leur péché. Elles ajouteront cette chose-là à leur péché. Voilà, trois choses. L'espérance de la gloire, le salut, la justice qui nous montre finalement qu'il n'y a qu'une seule espérance, il n'y a qu'un seul lieu, il y a un seul endroit, il y a une seule destination. Tout cela va se réaliser, mais il n'y a pas 15 destinations différentes, c'est qu'une seule dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu, dans les cieux, là où le Seigneur nous demande d'aller. Je reprenais ce verset. Alors, est-ce que je l'ai noté? Non. Je ne l'ai pas noté, c'est pas grave. En tout cas, c'était un verset qui nous disait que nous avons, à cause de notre appel, nous avons une seule espérance. Vous voyez? Un seul endroit. Et nous qui sommes embarqués dans ce moyen de transport de la foi vers le ciel, nous avons besoin d'être focalisés vers le ciel. Je réfléchissais à ce message et je lisais cette histoire. Un capitaine de bateau qui était chrétien, mais qui était un chrétien, il disait lui-même, j'étais un chrétien ordinaire, il n'y avait rien de spécial dans ma vie. Et puis j'ai rencontré un homme. Alors que je conduisais un bateau, ça faisait 22 heures que j'étais en train de conduire le bateau, parce qu'il y avait un temps très mauvais, du brouillard à couper au couteau, tellement il était intense. Et puis il y a un homme qui est venu derrière moi, cet homme donc raconte, vous savez qui c'était l'homme? C'était Georges Müller. Un homme de Dieu qui a vécu le siècle dernier et qui a vécu des expériences incroyables. Et là, c'en est une en particulier qui a touché le cœur de cet homme qui était capitaine de bateau. Et vous savez, ce n'était pas un métier sans conséquences. Hein. Pensez au Titanic et les conséquences, les milliers de morts que ça a. Capitaine de bateau, il y a une certaine responsabilité. Et cet homme, du coup, il avait beaucoup de prudence. Avec ce brouillard, ce mauvais temps, il avançait tout doucement. Et puis, il y a Georges Müller qui vient le voir, lui tapoyer l'épaule et il lui dit « Capitaine, je suis venu vous dire que je dois être samedi au Québec dans la soirée. » Et c'était le mercredi. Et puis, le capitaine, il lui dit « Mais je suis désolé, mais avec ce temps-là, ça sera impossible. » Et très bien, il lui dit « Si votre navire ne peut m'y amener, Dieu trouvera un autre moyen de transport. » Ça fait 57 ans. Je n'ai jamais manqué ni été en retard à aucun de mes engagements. Dieu a toujours pourvu. Alors, s'il va se passer quelque chose, c'est obligé. Eh bien, le capitaine, il dit, mais je voudrais bien vous aider, trouver un autre moyen de transport. Vous voulez qu'on appelle à la radio, quelque chose? Il dit, non, venez avec moi. Et on va prier. Et après, cet homme-là, il s'agenouille devant lui. Et lui, il dit, mais il sort d'où? Il est fou, qu'est-ce qui lui arrive? Pourtant, il était chrétien, mais ce n'était pas du tout son habitude. Et Georges Müller, il commence à prier. Ah, il ne fait pas une grande prière incroyable. Il dit, Seigneur, Je te demande simplement que le brouillard puisse disparaître totalement. Et tu vois que je dois aller au Québec et je crois que c'est ta volonté. Alors, merci parce que je crois que tu me donnes ce que je te demande. Et puis, le capitaine, il est là, il dit Amen, il se demande s'il doit prier ou s'il ne doit pas prier. Puis, Georges Muller, il vient le voir et dit non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Parce que, premièrement, vous n'avez pas la foi pour ça, vous ne croyez pas que quand vous allez prier, ça va se réaliser. Et deuxièmement, je crois que Dieu l'a déjà exaucé à ma prière. Donc, il n'y a pas besoin que vous priez. Et le gars, il le regarde tout pantois, il ne sait pas ce qu'il fait. Et puis, Georges Muller, il dit, mais venez voir avec moi. Et alors qu'ils étaient enfermés dans une cabine, ils sortent et en 5 minutes, Dieu a ouvert carrément le ciel. Il commençait à avoir un soleil rayonnant, quelque chose d'incroyable. Et la vie de ce capitaine a été marquée par cette expérience. Et quelques semaines après, il a rencontré un autre prédicateur qui voyageait et qui a vu en lui qu'il a vu qu'il y a quelque chose qui s'était passé dans son cœur à ce moment-là. Et cet homme, j'ai aimé ce qu'il a dit. Mes yeux ne voient pas le brouillard, ils voient le Dieu vivant qui dirige tous les événements de ma vie. Mes yeux ne voient pas le brouillard. Mes yeux ne sont pas ici-bas. Ils sont plus haut, vers le Seigneur Jésus. Ça, c'est l'espérance. Ça, c'est la vraie espérance. Et combien nous avons besoin cet après-midi, je crois, chacun pour notre part, quel que soit notre avancement avec le Seigneur, de fixer nos regards vers le ciel. Et que, en ayant ce face-à-face avec le Seigneur, nous puissions avoir notre espérance qui soit embrasée à nouveau. Est-ce que vous n'avez pas besoin? Est-ce que j'ai pas besoin que mon espérance soit embrasée à nouveau? Vous savez, des fois, il y a des épreuves, il y a les tempêtes de la vie qui sont là, il y a les fatigues, il y a toutes sortes de choses qui sont autour de nous, qui nous détournent de là où on doit aller, qui nous détournent de notre but. Et on a besoin simplement de prendre ce temps dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, redonne-moi l'espérance. Redonne-moi cette capacité de voir. J'aime cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Quand il dit, Seigneur, je te prie que tu illumines les yeux des cœurs des Éphésiens. Afin quoi? Afin qu'ils... Alors, comment c'est dit? Je ne veux pas le manger. Éphésiens chapitre 1er. Afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Le Seigneur vous a appelé à le suivre, à le servir, et il vous a donné une espérance. Mais des fois, on a besoin que par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu qui agit en nous, nous puissions avoir les yeux ouverts sur cette espérance-là et que nous puissions avoir cette capacité de faire confiance encore plus au Seigneur. La foi et l'espérance. Vous connaissez ce verset d'Hébreux 11, un des premiers versets. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous connaissez? Souvent, c'est mal compris. Il y en a qui croient que c'est une ferme assurance, donc des choses qu'on espère, donc je vais espérer quelque chose, et par la foi, je vais avoir une ferme assurance. Alors je vais espérer, je vais espérer qu'on va me donner une Ferrari Testarossa à la fin du culte, et par la foi, je vais l'obtenir. Est-ce que c'est ça? On est d'accord que non. Et il y a une autre traduction qui a donné comme ça, la foi est une garantie des choses qu'on espère. Et on peut se tromper de la même manière un peu. Mais revenez à l'image que je donnais tout à l'heure. Si la foi, c'est l'avion, l'espérance, c'est le but à atteindre. Et on comprend que la foi, l'avion, si on reste sur l'image, l'avion, c'est une garantie qu'on va arriver au but. Vous comprenez l'image? Quand je suis dans l'avion, quand je suis bien assis confortablement à côté du Seigneur Jésus qui pilote dans l'avion, j'ai la garantie que je vais arriver au bout. Si je croise les bras parce que j'attends l'avion, que je ne sais pas où il est, il est en retard, comme dans un aéroport, vous voyez, avec le panneau qui dit l'avion delay, en retard, je n'ai pas de garantie que je vais arriver à ma destination. Tant que je ne suis pas monté dans l'avion, je n'ai pas de garantie. J'ai beau avoir le billet en poche, tant que je ne suis pas installé dans l'avion, ce n'est pas garanti. Si je suis installé bien profondément et fermement, la fermeté de votre espérance dans la foi, j'ai la garantie d'être un jour avec le Seigneur Jésus. Comprenez, l'image est toute simple. Mais combien On a besoin que notre espérance soit ferme, solide, enracinée et fondée, et que tout cela est possible seulement si nous fixons nos regards vers le Seigneur Jésus. Et je finis avec cette troisième chose qui demeure, l'amour. Cette énergie à apporter, c'est la plus importante des choses, nous disait le premier verset. L'amour, c'est la chose la plus importante des trois. Et ça, c'est la chose la plus importante de toutes même. Et combien j'aime ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure, qui nous parle de l'amour de Dieu. Le plus bel avion au monde, le plus moderne, le meilleur plan de vol, la meilleure destination, ne sert à rien s'il n'y a pas de carburant. Et tout ce que nous pouvons faire, 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre, c'est le résumé de ce que je dis, tout ce que nous pouvons faire ne sert à rien s'il n'y a pas d'amour à la base. Même la foi que nous pouvons avoir pour déplacer les montagnes, dit l'apôtre Paul, ça ne sert strictement à rien si ce n'est pas l'amour qui est la cause première, qui est la motivation. Et cet amour, ce n'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour de Dieu. Ce matin, Jérémie m'a cité ce verset, je croyais qu'il allait piquer le message. Et en fait, merci, parce que ce n'est pas ça, il est parti sur autre chose. Merci Seigneur. Et ce verset, ça disait, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Notre foi doit travailler, doit produire des œuvres, mais qui sont motivées par une seule chose, l'amour, agissante par l'amour. Est-ce que c'est l'amour qui m'agite, qui fait que tout ce que je fais, c'est communiqué par l'amour? Les paroles que je dis, les gestes que je fais, les choses que je regarde, est-ce que tout ça c'est motivé par l'amour et l'amour de Dieu? Ça, c'est des questions que je me pose, que je nous pose à chacun, et qu'on a besoin de donner une réponse réelle, d'être sincère devant le Seigneur, sérieux, et de dire, Seigneur, ben, tu vois là, j'ai pas considéré ton amour, j'ai fait selon ma propre volonté. Pardonne-moi et remplis-moi de ton amour. Je me souviens de cette époque où je me suis rendu compte que j'avais pas d'amour en moi. J'essayais d'aimer Dieu avec mon amour, mais ça marchait pas. J'arrivais pas, je m'épuisais. Et puis j'ai fait cette prière, Seigneur, remplis-moi de ton amour. J'ai besoin, je reconnais mon manque, je reconnais mon vide. Remplis-moi dans ces moments de ton amour. Donne-moi cette capacité d'obéir à ta parole. Moi, je veux obéir, mais je sais que par moi-même, par mes forces, j'y arrive pas. Remplis-moi, Seigneur, de ton amour. Et que cet amour me permette d'agir dans la foi, de faire les œuvres de la foi qui vont t'honorer. Et bien, le Seigneur Jésus a exaucé mes prières et m'a donné un amour incroyable. Et quand je voyais des personnes, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'aller leur parler alors que j'étais quelqu'un de très timide. Mais parce que j'étais plein d'amour de Dieu, ben ça se faisait tout seul. Parce que j'avais prié avant. Si j'avais continué à ne pas prier, eh ben ça serait, je pourrais attendre encore jusqu'à aujourd'hui. Mais dès qu'on prie, qu'on place sa confiance dans le Seigneur il pourvoit. Est-ce que vous croyez qu'il n'est pas intéressé à ce que nous soyons pleins d'amour les uns envers les autres et envers ce monde aussi? Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il n'est pas intéressé à ce que nous soyons débordants de son amour et que cet amour puisse fortifier notre foi? Parce que, à cette belle illustration que je vous ai donnée, il y a quand même plein de défauts. On est d'accord? On ne peut pas dire, de toute façon, essayer de trouver une illustration qui est parfaite et ça ne marchera pas. Mais, je réfléchissais. Le carburant, il n'agit pas sur le moteur, il n'agit pas sur l'avion. Il permet pas que ça se fortifie. Alors que l'amour, plus l'amour il vient en nous, plus notre foi elle est fortifiée, plus notre espérance elle est ferme, plus tout cela est renforcé, vous êtes d'accord? Mais le carburant, lui, plus il brûle, plus il détériore le moteur, plus il détériore l'avion. C'est comme ça que ça se passe dans notre monde. Vous voyez les limites. Et je réfléchissais à cette chose, je finis avec ça. Le carburant, pour être transformé en énergie, il ne doit pas rester intact. Il est obligé d'être brûlé. Le moteur, c'est ce qui se passe. Je ne vous donne pas les détails techniques, je ne les connais pas. Vous adresserez à des mécanos si vous voulez plus de détails. Mais Le carburant, il ne peut pas rester intact, il faut qu'il communique l'énergie, et pour que ça se passe, il faut que ça soit brûlé. Et je réfléchissais de quelle manière le Dieu Tout-Puissant de l'univers a choisi de communiquer son énergie, son amour de façon la plus incroyable, c'est en donnant ce qu'il avait de plus cher. Et le Seigneur Jésus lui-même s'est donné lui-même, donc il a montré aussi son amour envers les hommes. Et est-ce que ce n'est pas une façon de s'oublier, de se soumettre, de ne pas faire selon sa propre volonté et de brûler d'une certaine manière notre péché à la croix et communiquer l'énergie pour que nous puissions être pleins de cet amour et la communiquer à notre tour. Quelque chose de tellement simple. Mais le sacrifice de Jésus, c'était ça. C'est quelque chose qui a initié un mouvement spirituel incroyable, maintenant, qui permet que le chemin vers le ciel, il est ouvert, et qui permet que tous ceux qui étaient des pécheurs soient rapprochés vers Dieu, et qui permet qu'à tous ceux qui étaient pécheurs d'être remplis de l'amour de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est pas incroyable, cette affaire-là? Maintenant, nous devons accepter l'amour de Dieu dans notre vie, et nous devons accepter à ce que cet amour ne soit pas laissé tel quel, mais nous devons accepter à ce que nous devons renoncer à nous-mêmes. Pas penser qu'à soi. Ça ne doit pas nous laisser intact, si vous voulez. Quand il est dit le travail de votre amour, le mot exact, c'est le labeur. Il y a le sacrifice, il y a un travail, mais une peine, quelque chose qui est dur. Et je pensais à cette image, qui est totalement biblique, celle-là. Si le grain de blé planté en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Notre amour, s'il n'a aucun sacrifice, s'il n'a aucun renoncement à soi, il ne pourra pas porter la vie que Dieu voudra lui donner. Mais si on accepte de passer par ce chemin-là que le Seigneur Jésus a passé de façon tellement magnifique, si on accepte d'aller dans ce sens-là, de ne pas repenser seulement à nous-mêmes, mais si on est poussé par l'amour de Dieu, alors nous pourrons lui obéir pleinement. Amen. Amen. Que nous puissions, comme nous l'envolons lui, demeurer dans ces trois choses, demeurer dans les œuvres de la foi, demeurer dans la fermeté de l'espérance, demeurer dans le labeur, le travail de l'amour, et réfléchir cet après-midi simplement, est-ce que Jésus, il est aux commandes de ma vie? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus, ou est-ce que c'est moi qui pilote, et quand j'en ai besoin, je dis, Seigneur Jésus, viens m'aider là, tu vois, je ne comprends pas telle situation. Ou est-ce que je dis, non Seigneur, j'ai compris, c'est par ton esprit, par ta parole, par ta présence, que je veux que ma vie avance. Je veux avoir cette foi qui travaille. Je veux avoir l'espérance, le savoir où je vais. Le but à atteindre, c'est d'aller dans ton ciel. Et je veux avoir cette énergie dans mon cœur, ton amour que tu vas me donner. Alors que nous allons prier dans ces quelques instants, le Seigneur Jésus, je crois, veut répandre son amour dans chacun de nos cœurs. Le tout, c'est que nous ayons le cœur ouvert. Alors, prions le Seigneur de tout notre cœur. Merci Éternel. Merci pour ta parole. Et c'est vrai que ces trois choses demeurent. Et nous voulons nous-mêmes demeurer dans ces trois choses. Nous voulons demeurer dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Seigneur, aide-nous. Tu vois les limites de notre nature humaine. Tu vois notre chair qui est là. Tu vois aussi l'ennemi qui s'acharne à nous détourner de notre but. Mais Seigneur, nous avons compris que c'était les trois choses prioritaires de notre vie. La foi, l'espérance et l'amour, Seigneur. Dans ces moments, toi qui connais nos cœurs le mieux que personne, répands ton amour, répands ta grâce. Aide-nous à avoir cette énergie profonde qui nous vient directement de toi pour accomplir ta volonté, pour faire les œuvres de la foi que tu veux que nous fassions, ces œuvres que tu as préparées d'avance, Éternel. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce comportement qui t'honore, à avoir cette foi qui se voit de manière pratique tous les jours de notre vie. Combien nous avons à progresser encore à ce domaine, mais nous croyons, Seigneur, que tu veux nous y aider. Seigneur, par ton Saint-Esprit aussi dans ces moments alors que nous prions, illumine les yeux de notre cœur, que nous puissions, Seigneur, voir avec certitude l'espérance qui s'attache à notre appel, Seigneur. Dans ces moments, tu vois cette personne, cet après-midi, qui est encore sans espérance, qui est encore sans assurance, quant à l'endroit où elle sera après la mort éternelle, communique-lui cette espérance. Donne-lui, Seigneur, de comprendre que le seul chemin pour aller au ciel, il passe par l'acceptation de Jésus qui est mort à la croix. Éternel, dans ces moments, révèle-toi encore à un cœur, déverse ton amour, comme nous l'avons dit et entendu dans les prières, que ton fleuve d'amour, Seigneur, puisse couler dans ce lieu avec abondance et remplir chacun de nous, Seigneur, et nous envahir et nous inonder afin que nous soyons des personnes qui partagent cet amour autour d'eux. Merci, Éternel, parce que tu le fais. Que ton nom soit béni pour l'œuvre que tu accomplis dans ce moment par ton esprit dans les cœurs. Amen.